Radio Okapi. Le journal présenté par Belinda Bossouma.
Il faut des sanctions claires et des mesures immédiates contre le Rwanda, pays démontré comme auteur des violations du droit international dans le récent rapport des experts de l'ONU. Dans un communiqué, le ministère congolais des Affaires étrangères interpelle notamment l'Union africaine et l'ONU d'aller au-delà des simples déclarations et condamnations. Ituri, plus de 300 cas de violences sexuelles basées sur le genre, recensés en 2024 dans le site des déplacés de Roho, territoire de Djougou. Chiffre publié vendredi par le responsable de la zone de santé de Blukwa, Dei Lumbu, demande aux leaders communautaires de multiplier des séances de sensibilisation de masse pour réduire ce fléau. Et puis, l'invité de ce matin, Jean-Jacques Pouroussi, gouverneur du Sud-Kivu, il nous parle de sa rencontre avec les membres du bureau de l'Assemblée provinciale. Le gouverneur est allé solliciter le soutien des élus pour mener un combat concerté contre les exploitants illégaux des minerais. Madame, Messieurs, bonjour. Le gouvernement congolais exige des sanctions claires et des mesures immédiates contre le Rwanda, démontré comme auteur des violations du droit international et d'ingérence systématique dans le récent rapport des experts des Nations Unies. Dans un communiqué de presse du 11 janvier, le ministère congolais des Affaires étrangères invite les membres du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine ainsi que les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies à prendre leurs responsabilités face à ces révélations accablantes. D'autres détails avec vous, Billy Van Lutumba.
Dans son communiqué, le ministère des Affaires étrangères interpelle les partenaires, les alliés de la RDC, l'Union africaine ainsi que l'ONU, qu'il est impératif d'aller au-delà des simples déclarations et condamnations. Pour le ministère, laisser de tels actes impunis continuerait de porter gravement atteinte à la crédibilité des institutions internationales et au fondement même de l'ordre international basé sur le droit. Face à la persistance des violences graves telles que documentées dans le rapport, le ministère congolais des Affaires étrangères insiste que le moment est venu pour que tous les partenaires de la RDC montrent une détermination sans faille à l'encontre du Rwanda. Il rappelle que la restauration de la justice et la garantie d'une paix durable dans la région n'est pas seulement une obligation morale, mais un impératif pour la stabilité et la sécurité internationale. Ainsi donc, l'inaction face à des preuves aussi accablantes menacerait l'ensemble du système multilatéral et son rôle dans la préservation de la paix mondiale, poursuit-il. Par ailleurs, le gouvernement de la République démocratique du Congo se fait le devoir d'examiner scrupuleusement les allégations soulevées dans le rapport concernant certaines pratiques des FRDC pour identifier et corriger toute lacune éventuelle dans un souci de transparence, d'amélioration continue pour le respect des normes internationales.
Par ailleurs, dans un communiqué de presse posté sur le compte X de la présidence de la République du Congo, les présidents Denis Sassou Nguesso et João Lourenço ont exprimé leur profonde préoccupation face à la poursuite des combats à l'est de la RDC malgré le cessez-le-feu signé le 4 août 2024 et la dynamique des rencontres entre les délégations de la RDC et du Rwanda. Les deux chefs d'État ont exhorté les parties concernées à maintenir et renforcer les initiatives favorables au dialogue et de faciliter et soutenir les efforts de la médiation, conclut ce communiqué. La province du Sud-Kivu a besoin de l'appui de toutes ses fils et filles pour combattre l'exploitation illicite des ressources minières. Déclaration du gouverneur de province qui a rencontré samedi les membres du bureau de l'Assemblée provinciale à Bukavu. Les deux parties ont convenu de se serrer le coude pour barrer la route aux exploitants clandestins des minerais de la province. Le compte-rendu de Jean Kassami.
Le gouverneur Jean-Jacques Pouroussi a initié la rencontre avec le bureau de l'organe délibérant pour évoquer ensemble la question épineuse des minerais qui profitent aux étrangers en défaveur des populations locales qui pataugent dans la misère.
Comme vous le savez, il y a un certain nombre de problématiques qui défraient la chronique. Il s'agit notamment des questions minières dans la province du Sud-Kivu. Et donc, nous sommes venus ici pour faire le point, voir comment nous allons renforcer, comme d'habitude, notre coopération par rapport à cette question. Voilà pourquoi nous avons pris une série de mesures pour essayer de faire en sorte que l'exploitation de l'or soit systématisée et légalisée.
Le bureau de l'Assemblée provinciale a rassuré les gouverneurs de leur appui, son président Kabeza.
Nous soutenons le gouverneur, nous voulons l'encourager dans cette action-là, parce que ce type d'action, c'est ça dont la population du Sud-Kivu a besoin. Merci au président de la République par rapport au soutien qu'il apporte à l'action du gouverneur de province.
L'exécutif et l'organe délibérant du site Kivu militent pour que les revenus miniers puissent réellement booster le développement de la province. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Et puis, la gestion de 3 millions de dollars d'investissement débloqués par le gouvernement central depuis septembre dernier en faveur de la province du Kasaï-Oriental oppose la classe politique depuis quelques semaines. Dans une déclaration faite samedi, la société civile du Kasaï-Oriental, dans toute sa diversité, exige un contrôle citoyen en vue d'éclairer la population et apaiser la controverse. Esther Ndalafina nous en dit plus.
C'est le sénateur et ex-gouverneur du Kasaï-Oriental, Alphonse Ngoï Kassangi, qui annonce en premier le décaissement par le gouvernement central d'une somme de 3 millions de dollars depuis septembre 2024. Une somme, selon lui, destinée aux investissements dans la province du Kasaï-Oriental. Une information qui devient virale sur les réseaux sociaux avec des réactions dans tous les sens, poussant l'autorité provinciale à éclairer la lanterne de la population. Dans un point de presse tenu jeudi dernier, le gouverneur de province a fait savoir qu'un tiers de ces fonds a été utilisé pour la rémunération des agents de la régie financière provinciale. D'autres fonds ont servi aux agents du gouvernorat des provinces, à l'Assemblée provinciale et les restes de fonds sont logés dans un compte sous forme d'un dépôt à terme auprès d'une banque locale. Des déclarations rejetées d'un revers de la main par le rapporteur de l'organe délibérant qui dit n'avoir reçu aucune correspondance annonçant le décaissement des fonds d'investissement pour la province du Kasaï-Oriental. Pour calmer la tension, la société civile, dans toute sa diversité, exige un contrôle citoyen, pièce contre pièce, en vue d'éclairer la population et apaiser la controverse. Esther Ndalafina Mbujimai, Radio Okapi.
Je vous l'ai dit dans les titres, en Ituri, plus de 300 cas de violences sexuelles et basées sur le genre ont été recensés l'année dernière dans le site des déplacés d'Oro, à environ 100 km de la ville de Bunia, territoire de Djougou. Ces chiffres ont été publiés vendredi 10 janvier par l'infirmier titulaire de la zone de santé de Blukwa, où certaines victimes, dont l'âge varie entre 12 et 13 ans, sont prises en charge. La plupart sont des filles déplacées qui se livrent au sexe pour survivre à la suite aux conditions difficiles dans le site. Le responsable de cette structure sanitaire, des Lumbu, demande aux leaders communautaires de multiplier des séances de sensibilisation de masse pour réduire ce fléau. Des Lumbu, joint par Ezekiel Mouzalia.
Dès qu'on a vu la sensibilisation, on a trouvé qu'il y a encore des cas de viol qui continuent. Des enfants qui se sont mariés, ils ont des grossesses par-ci par-là. C'est ça qu'on a constaté encore dans le site. Parce qu'à cause du manque de moyens, il y a des filles qui se donnent et après, elles ont des grossesses. Le mois dernier, ici, nous avions 19 cas. Comme le site est vaste, il y a aussi des enfants qui se livrent à la prostitution à cause du manque de moyens. À cause de ça, il y a beaucoup de cas de grossesse. Souvent, quand les gens arrivent pour la septième, souvent, ce sont seulement les filles de moins de 18 ans. Le message que je devais donner, il faut que vous puissiez venir intervenir dans le site avec la protection alimentaire parce que il y a des gens qui manquent à manger. Parce que la nourriture, c'est dans la bouche que les Côte d'Ivoire a déjà tout ravagé.
Autre nouvelle, la ville de Lubumbashi fait face à un regain de criminalité. Des cas de tuerie, de vol, de viol et des enlèvements sont de plus en plus signalés. La plupart de leurs auteurs courent encore les rues. La population demande aux autorités de renforcer la sécurité car les malfrats sèment la terreur. Conséquence, certains jeunes font de l'autodéfense en passant des nuits entières à l'extérieur pour dissuader les malfaiteurs. Par ailleurs, des présumés bandits ont été présentés mercredi dernier au gouverneur de province par le commissaire provincial de la police. Le gouverneur Jacques Kiaboula, qui salue ce joli coup de filet, demande à la police d'intensifier les recherches pour mettre la main sur tous ceux qui sèment la terreur à travers la ville. Jean Gandou, reportage.
Pour la société civile, ce phénomène qui pourtant était en baisse refait surface depuis plusieurs semaines. Au crépitement des balles, une fois la nuit tombée, dans plusieurs quartiers, s'ajoutent les cas de cambriolage. Se promener la nuit dans certains quartiers de la ville serait synonyme de mettre sa vie en danger. Des paisibles citoyens sont souvent attaqués dans leur maison ou sur la route par des personnes munies de fusils et d'armes blanches dont les machettes, les marteaux, les barres de mine, les couteaux, les scies et autres. Ces malfrats opèrent par moments en groupe d'une dizaine voire d'une vingtaine de personnes. personnes. Ils sont auteurs de nombreux forfaits, notamment le vol, les viols, les meurtres ainsi que les coups et blessures. Plongés dans le désarroi, désespérés et rongés par la peur, car ne sachant qui sera la prochaine victime, certains louchois lancent un cri de détresse aux autorités.
Ça ne va pas. Chaque jour, on attend de gauche à droite des tueries. Nous dormons stressés, inquiets. Nous demandons aux autorités de mettre toutes les batteries en marche.
Il faut que les autorités puissent revoir certaines choses parce que les Congolais se retrouvent de plus en plus en danger, qu'on ne sait pas quand est-ce que nous serons attaqués.
On fait que tuer les gens, c'est comme s'il n'y a pas les autorités. On viole, dans des quartiers on ne dort pas. Ce sont des gens qui se mobilisent pour se prendre en charge, comme à la Roissy. Les jeunes passent la nuit dehors pour se prendre en charge.
Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Dans l'actualité aussi, la grève des médecins membres du SINAMED, radicalisée depuis le 28 décembre dernier, elle s'est poursuivie. Entre-temps, les conséquences se font sentir dans les hôpitaux publics, notamment à l'hôpital général de référence de Bandundu dans la province du Kwilu. Selon les patients, leur prise en charge n'est pas assurée comme il se doit, car l'effectif des médecins devant s'occuper d'eux est réduit sensiblement. Irène Mboma les a rencontrés. Voici son reportage.
Nous sommes à l'hôpital général de référence de Bandundu. Ici, certains malades et gardes malades trouvés affirment ne pas être satisfaits du nombre réduit de médecins qui sont restés au poste à la suite de la grève des médecins affiliés au syndicat national des médecins, SINAMED en sigle. D'après eux, cette situation a un impact négatif sur la prise en charge des patients car, disent-ils, même les tours de salle sont devenus rares, découlant de l'insuffisance de ces personnels. À notre arrivée ici, on nous a dit que les médecins sont en grève. Ils viennent rarement pour nous voir et aussi en retard. Parfois, vers 10 heures, vous voyez un médecin entrer. J'ai constaté ici qu'il y a peu de médecins, mais beaucoup de malades. Je ne vois que 3. Sauront-ils faire le tour des salles jusqu'à la fin? Ce sont les malades qui payent les pots cassés. Moi, c'est grâce à Dieu que mon enfant vit encore. Quand nous sommes arrivés ici, on a attendu longtemps avant qu'un médecin arrive pour les consulter. Vraiment, c'est difficile pour les malades. Certains malades pointent des doigts le gouvernement congolais qui, selon eux, reste le seul responsable de cette situation. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
Province du Maniema, les responsables d'école et les présidents des comités des parents ont été sensibilisés ce week-end à Kindu sur comment lutter contre le monkeypox en milieu scolaire. Organisée par la division provinciale de la communication et médias du Maniema, cette activité avait pour objectif d'intensifier l'information sur la prévention au Mpox en milieu scolaire, activité réalisée avec l'appui technique et financier de l'UNICEF. Le compte-rendu de Florence Kizalunga.
C'est le chef de division provinciale de la communication et médias du Maniema qui a organisé ce briefing, Rachid Issefou.
Nous, on a pensé réaliser ce briefing auprès des responsables des écoles. C'est parce qu'ils vivent beaucoup avec les enfants. Peut-être ils vont aussi introduire quelques mots sur les Mpox.
L'un des facilitateurs revient sur les notions apprises par les participants, Camille Wakansilembo.
Après cette notion de généralité sur la monkeypox, on est passé à la phase de la comment communiquer, les mesures barrières, mais aussi ils doivent s'abstenir de manger n'importe quoi en termes d'animaux.
Les responsables d'école trouvent très important cette initiative et promettent de transmettre les notions apprises aux élèves. Férouz Morichaud est l'un d'eux.
Il était très important que nous ayons ces notions, afin que nous aussi, nous puissions transmettre cela à nos élèves.
Ngumbi Mundeke Raphaël, du comité des parents, promet de sensibiliser aussi ses pères.
Tant que parents, j'espère qu'avec cette sensibilisation, ça va d'abord sauver nos enfants contre cette maladie, Mpox, et aussi, ça va nous sauver nous aussi les parents. Parce qu'il y a d'autres parents qui sont ignorants. Nous aussi les parents, nous allons vulgariser auprès des autres parents.
Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Actualité internationale. Le gouvernement français vient de rétrocéder au Tchad son camp de détachement dans la ville d'Abéché. Le ministre de la Défense tchadien, sa délégation et des officiels français ont pris part à cette cérémonie. L'armée française dit avoir consolidé des liens forts avec les soldats tchadiens ainsi qu'avec la population civile au cours des longues années de présence dans le nord du pays. Le ministre de la Défense qui félicite cette décision tient quand même à rappeler que la date de départ de ces troupes demeure le 31 janvier 2025. Et puis, ce lundi 13 janvier, c'est la reprise du procès de Kizza Besigye devant la cour martiale de Kampala. C'est un opposant historique au président ougandais Yoweri Museveni, enlevé au Kenya en novembre dernier avant d'être renvoyé dans son pays selon ses proches. Cet opposant ougandais est poursuivi pour détention illégale d'armes à feu dans le but de déstabiliser la sécurité nationale.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons le gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Pourroussi. Il revient sur les raisons qui l'ont poussé à rencontrer les membres du bureau de l'Assemblée provinciale à l'hémicycle le samedi 11 janvier à Bukavu. Jean-Jacques Pourroussi s'entretient avec Jean Kassami.
Monsieur le gouverneur de province, bonjour.
Oui, bonjour.
Comment justifiez-vous aujourd'hui cette rencontre avec les bureaux de l'Assemblée provinciale?
C'est pour, encore une fois, le renforcement de la collaboration interinstitutionnelle entre l'exécutif et l'Assemblée provinciale. Donc, comme vous le savez, il y a un certain nombre de problématiques qui défraient la chronique dans la province du Sud Kivu depuis un certain temps. Il s'agit notamment de la question de la légalité minière dans la province du Sud Kivu. Et donc, nous sommes venus ici pour faire le point avec le bureau de l'Assemblée provinciale pour voir comment nous allons renforcer, comme d'habitude, notre coopération par rapport à cette question.
À quel point l'exploitation illicite des minerais de la province du Sud Kivu par des firmes étrangères illégales impacte-t-il le développement de la province?
Avant qu'on arrive à la tête de la province fin juin 2024, la province générait environ 500 000 dollars américains le mois, alors qu'une province comme le Lualaba, qui est 14 fois moins riche que la province du Sud Kivu, est au-delà de 50 millions de dollars américains le mois. Et la redevance du Lualaba provient essentiellement de deux produits miniers, à savoir le cobalt et le cuivre. Alors qu'ici, au Sud Kivu, nous avons 14 fois plus de cobalt, de cuivre, nous avons du lithium, nous avons de la cassitérite, de l'or, du coltan, nous avons la manganèse, nous avons du diamant, nous avons aussi des terres rares, mais les gens meurent de faim, on n'arrive pas à générer même 1 million de dollars américains le mois. Voilà pourquoi nous sommes mis ensemble. Il faut que ces minéraux puissent maintenant générer des millions de dollars américains pour que ça crée du développement ici. Il ne faut pas qu'elle soit seulement des exploitants étrangers qui profitent pendant que la population souffre, pendant qu'il y a du sous-développement chez nous. Voilà pourquoi nous avons pris une série de mesures pour essayer de faire en sorte que l'exploitation de l'or soit systématisée et légalisée.
Pourquoi préférez-vous vous appuyer sur l'organe délibérant pour mener à bien la lutte contre la fraude minière en province?
Nous y arrivons grâce à l'appui et à la collaboration de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, des médias que vous êtes, de la société civile et de tous les acteurs impliqués dans la problématique du développement. Vous le savez très bien, nous avons saisi une quantité d'or et d'argent liquide auprès d'une société qui était en exploitation illégale dans le territoire de Walung, ou plus précisément à Lubimbe. Et donc là, il s'agissait d'une importante quantité d'or que nous avons consignée dans les coffres de la CSC, après avoir travaillé avec la Banque centrale forcément. Et les 400 000 dollars américains que nous avons récupérés, nous les avons consignés comme il se doit auprès de la banque sur le compte de la province du Sud Kivu. Ces citoyens chinois que nous avons attrapés dans l'exploitation illégale, nous les avons confiés à la justice. C'est qu'on puisse les juger d'abord ici au Sud Kivu et pas ailleurs, parce que c'est ici où l'incident s'est passé, et que cet argent qui a été généré puisse être utilisé ici pour contribuer à la reconstruction et au développement de la province du Sud Kivu.
Les investisseurs étrangers qui désirent investir légalement dans l'exploitation des minéraux sont-ils les bienvenus au Sud Kivu?
Nous continuons les investigations pour essayer de traquer les illégaux et d'encourager ceux qui veulent faire la légalité. Notre politique, c'est de travailler avec tous les investisseurs. Les investisseurs chinois, le but, ce n'est pas de les chasser. S'ils acceptent de s'asseoir, de dire, ouais, nous avons exploité illégalement, nous avons tiré ceci dans les sols du Sud Kivu, nous calculons les amendes par rapport à ce que prévoit le code minier,
nous allons tout simplement assurer qu'ils se mettent en légalité s'ils acceptent l'arrangement que nous avons proposé, c'est-à-dire contribuer à la construction des routes, à la réhabilitation des ponts, à la protection de l'environnement, la gestion des écosystèmes, contribuer aussi à la production agroalimentaire dans chaque territoire où ils vont s'y retrouver pour la population.
Merci, monsieur le gouverneur.
Voilà, c'était là le gouverneur du Sud Kivu qui répondait aux questions de Jean Kassami. Par ici prend fin ce journal, coordonné par Jude Mister Bilanda, Mimi Kindo à la mise en onde. Merci de rester des nôtres.